France Culture.
Lumière aujourd'hui sur les personnes autistes et sur leur prise en charge dans notre pays. Trois chiffres pour poser la discussion. 100 000, c'est le nombre de personnes de moins de 20 ans ayant un trouble du spectre de l'autisme, aussi appelé TSA. 600 000, c'est le nombre d'adultes concernés et ces troubles concerneraient par ailleurs 7 500 naissances chaque année en France. Nous nous intéresserons ce soir à la situation des jeunes autistes et aux cas les plus sévères. Alors que dire de leur prise en charge aujourd'hui? Que dire des méthodes utilisées en France? De l'organisation de notre système, des moyens que nous allouons à l'accompagnement, à l'émancipation de ces enfants? Pour en discuter, pour en débattre aussi, deux invités ce soir. Éric Jeanrenaud, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur de l'Institut médico-éducatif La Chamade à Herblay dans le Val-d'Oise. Cette IME dépend de l'association ARP, Handicap Autisme Association réunie Parisie. Avec nous, et nous serons rejoints dans quelques instants par Isabelle Resplandino. Elle est présidente de l'association pour les Français en situation de handicap en Belgique et elle est mère d'un fils autiste. Merci à tous les deux d'être ce soir dans Questions du soir.
L'emmener en Belgique, on ne le voit pas et c'est très difficile.
Il a été diagnostiqué
trouble autistique avec un syndrome profond. Et il est aussi épileptique. On a tout de suite voulu s'inscrire dans les IME en France. Ceux qu'on a été voir, d'une part, c'était inadapté. Il n'y avait pas de personnel hospitalier comme une infirmière pour donner les traitements par rapport à notre enfant. Alors déjà il est autiste, alors s'il est épileptique, c'est encore une double peine. Alors il a des séances de logopède, l'orthophoniste, c'est les termes en Belgique. Il y a une infirmière, il y a des auxiliaires, les aides-soignants et des enseignants qui sont adaptés à l'handicap. Quand vous voyez l'établissement, vous croirez que comme en France, ça serait pareil. Il faudrait prendre l'établissement et il faudrait le mettre en France.
La voix de David Ledelay, un reportage du Parisien. Et effectivement, ceci est peut-être une illustration d'un dysfonctionnement français. C'est pour cela que nous avons voulu commencer par ce témoignage, puisque depuis plusieurs dizaines d'années, des établissements spécialisés en Wallonie accueillent des autistes français, enfants et adultes, qui ne trouvent pas de solution adaptée en France. Alors cela concerne principalement les cas d'autisme sévère sur lesquels nous nous concentrons dans cette émission. Éric Jeanrenaud, qu'est-ce que cela raconte, ces parents qui sont contraints d'emmener leurs enfants en Wallonie?
Ça fait lumière sur le manque de places dans les établissements en France. Rien que sur le département du Val-d'Oise, il y a 3000 enfants qui sont avec une notification de la MDPH en destination d'un IME qui ne trouvent pas de place. Alors sur les 3000, ils ne sont pas tous autistes, mais une partie le sont. Donc ça veut dire que malgré les moyens financiers alloués par l'ARS.
L'ARS, c'est l'Agence régionale de santé. Oui, il y a beaucoup de sigles et d'acronymes qu'on précisera dans cette émission.
Qui finance les IME via la Sécu, la Sécurité sociale. Ça dit que malgré les besoins, les moyens qui sont alloués, il en manque. Et notamment, c'est de la création de places qui manque.
C'est un manque de places, un manque de moyens uniquement en France qui est pointé à travers ce phénomène qui s'est développé, on l'a dit, il y a une dizaine d'années en Belgique, ou c'est bien plus que cela? C'est-à-dire, est-ce que c'est aussi d'autres méthodes qui sont développées, déployées outre Quévrin, ou est-ce que c'est bien autre chose?
Alors, c'est aussi la façon de penser la création des établissements. La Belgique a, il y a des quelques dizaines d'années, a permis en fait sur la partie Belgique francophone que des établissements puissent se créer d'une manière plus facile et plus aisée qu'en France. En France, on ne peut pas décider demain j'ouvre un établissement, ça ne se fait pas comme ça. En Belgique, en fait, il y a la possibilité pour des personnes de monter, de créer un établissement comme finalement, je caricature un peu, mais comme on monte une entreprise avec un projet, bien sûr, donc il y aura quand même des contrôles qui seront faits, mais en tous les cas, c'est plus simple.
Isabelle Resplandino, merci de nous avoir rejoint. La technique a été un peu compliquée pour qu'une liaison soit établie. Donc merci à l'équipe également de France Culture de s'être attelée à cette tâche. Expliquez-nous d'abord pourquoi vous-même êtes partie en Belgique pour permettre à votre enfant autiste, votre fils, d'être mieux accompagné.
Alors, je ne suis pas partie en Belgique pour cela. En fait, j'ai épousé un Belge et nous avons eu notre enfant qui est autiste. Et heureusement, nous étions en Belgique. Je dis heureusement à l'époque parce qu'il a déjà 24 ans. Et donc, il a pu vraiment progresser dans l'enseignement spécialisé tout d'abord, puis en inclusion.
Et pourquoi dites-vous heureusement en Belgique? Quelle est la différence justement des méthodes déployées, employées entre la Belgique et la France?
Eh bien, mon fils a maintenant 24 ans, donc il y a 20 ans en arrière... en Belgique, on faisait déjà depuis plus de 10 ans les approches qui plus tard seraient recommandées par la Haute Autorité de Santé. Donc, c'est-à-dire les approches cognitivo-comportementalistes avec la structuration spatio-temporelle, la communication alternative et augmentative. En fait, ce que 2 années plus tard, la Haute Autorité de Santé recommandera pour l'autisme.
Expliquez-nous, Éric Jeanrenaud, est-ce que la France, en comparaison du Canada, pour d'autres raisons, en comparaison de la Belgique, est-ce que notre pays est en retard dans la prise en charge de ces enfants autistes? Là aussi, je parle bien plus que des moyens, parce que nous y viendrons à cette question fondamentale, mais je parle bien plus des méthodes et des façons de les accompagner.
Alors, je ne sais pas s'il faut parler de retard. En tous les cas, la France n'a pas pris les mêmes options il y a plusieurs années. J'entends ce que dit Madame. Il est vrai que pendant très très longtemps, trop longtemps sûrement, l'autisme a été traité en France comme de la psychiatrie. Ce qui n'est plus le cas, voilà.
Donc on faut rappeler effectivement, hein, l'autisme n'est pas une maladie, l'autisme est un handicap et donc c'est un autre type de prise en charge effectivement qu'il faut envisager.
Voilà, mais effectivement il y a 20-30 ans les personnes autistes, quand elles étaient reconnues autistes, hein, parce que déjà tout le monde ne l'était pas à l'époque, hein, comme on peut l'être maintenant, les diagnostics sont plus faciles, étaient malheureusement souvent pris en charge uniquement via les hôpitaux psychiatriques. Donc oui, il y a eu quand même un virage qui a été pris par la France de pouvoir sortir finalement ces personnes du médical pour les mettre vers le médico-social. J'entendais Madame parler des techniques comportementalisme. C'est vrai que très longtemps, la France a été d'abord plutôt sur des méthodes de psychanalyse plutôt que du comportementalisme. Maintenant, à l'exception peut-être de quelques établissements qui sont encore dans des doctrines comme ça, c'est plus le cas. Donc on est généralement dans nos établissements sur des versants qui peuvent être à la fois de la psychanalyse, à la fois du comportementalisme. Voilà, on va chercher plusieurs outils qui vont nous permettre de mieux comprendre et de mieux accompagner les enfants.
Pour mieux comprendre et mieux accompagner, Isabelle Resplandino, quelles sont les méthodes là aussi utilisées en Belgique? Est-ce que c'est d'abord et avant tout la pluridisciplinarité, la transdisciplinarité? On fait à la fois du médical et du social?
Alors, déjà, on ne fait pas du médical, mais on fait du paramédical, parce qu'il faut bien savoir que la principale différence entre la France et la Belgique, c'est que la Belgique a un enseignement spécialisé et qui dépend entièrement du ministère de l'Éducation. C'est-à-dire que autant les enseignants spécialisés que les personnes du paramédical, c'est-à-dire ce qu'on appelle ici les logopèdes, l'équivalent d'orthophonistes, les kinés psychomotriciens, plus le personnel éducatif, éducateur spécialisé, tout le monde dépend du ministère de l'Éducation. Et donc, en fait, c'est-à-dire vous avez tout ce que vous trouvez peut-être dans un IME français, mais c'est vraiment une école. Donc, c'est-à-dire, ce n'est pas médicalisé. Les enfants vont à l'école le matin, ressortent dans l'après-midi. C'est ça qui est vraiment différent, je dirais, par rapport à la France. Et aussi, le problème qu'il y a en France, c'est un manque de place énorme. Donc, nous avons ici l'enseignement spécialisé qui peut durer jusqu'à 21 ans. mais aussi ce qui permet, comme tout le monde vient de la même maison, si vous voulez, du ministère de l'Éducation, quand on fait l'inclusion à une école ordinaire d'un élève, quand un élève est scolarisé, à besoin spécifique, et scolarisé à l'ordinaire, donc en l'occurrence des élèves autistes, en fait, il n'y a pas de problème d'acculturation entre le monde médico-social, puisque tout le monde vient de la même maison. Donc, ils ont fait des études dans les mêmes établissements, ils parlent le même langage. Ça facilite vraiment les choses, je dirais.
Éric Jean-Renaud, justement, quel est dans votre IME en particulier, votre institut médico-éducatif, la place de l'éducatif, justement, et même de la scolarisation pour certains d'entre eux ?
Alors justement, j'invite Madame, si elle le souhaite un jour, bien volontiers, à venir visiter mon établissement, puisque ça a quand même changé. On est effectivement un établissement où il y a à la fois de l'éducatif et du pédagogique. Maintenant, l'enseignement spécialisé existe dans les IME en France, depuis déjà plusieurs années. Moi, j'ai quatre enseignants spécialisés qui sont détachés, finalement, de l'éducation nationale. En fait, c'est pas le même ministère, nous, chez nous, mais il y a des conventions qui sont passées et qui permettent que l'éducation nationale mette à disposition des enseignants spécialisés qui ont donc une formation spécialisée en tant que professeur des écoles, mais spécialisée dans le handicap, qui viennent travailler dans nos établissements.
On entend parfois beaucoup, Éric Jean-Renaud, que la scolarisation en milieu ordinaire, comme on le dit régulièrement, est l'une des solutions avancées notamment par beaucoup d'associations. Est-ce que c'est pour vous une solution qu'il faut viser en permanence, la scolarisation, ou tout simplement pour certains enfants, ce n'est pas possible, ce n'est pas même souhaitable ?
Alors, c'est une solution, mais ce n'est pas la solution. Puisqu'il ne faut pas aller dans l'inclusion à tout craindre. Et c'est un peu ce que, depuis quelques années, les politiques nous demandent. L'inclusion, elle ne peut être faite que si, à côté, il y a des accompagnements et des moyens, que ce soit humains et financiers. L'éducation nationale, pour l'instant, n'a pas les moyens. Il faut être honnête, elle n'a pas les moyens de faire le travail auprès des enfants autistes. Moi, j'ai dans mon établissement des enfants qui sont encore de temps en temps quelques heures dans la semaine à l'école normale, je veux dire dans leur école de quartier, de leur commune, mais sur des temps qui sont vraiment limités et sur des morceaux d'apprentissage ou de pédagogie, puisqu'ils n'ont pas la capacité de suivre un programme scolaire en entier. Et j'ai aussi une classe externalisée. C'est-à-dire que j'ai quelques enfants de l'IME qui vont dans une école du quartier à côté de l'IME, accompagnés par un instituteur spécialisé de l'IME et d'un éducateur de l'IME. Mais voilà, il ne faut pas absolument penser que l'inclusion dans une école va résoudre tous les problèmes. L'éducation nationale, quand un professeur des écoles a une classe de 30 enfants, on imagine bien qu'il n'a pas les moyens de s'occuper d'un enfant autiste dans cette classe.
Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée, Isabelle Respondino?
Oui, tout à fait,
vous nous avez dit en préparant cette émission qu'il ne fallait pas toujours viser l'inclusion parce que parfois même, ce sont vos mots, l'inclusion pouvait être maltraitante.
Tout à fait. Il y a des enfants qui ont vraiment besoin du cocon, je dirais, du spécialisé. D'ailleurs, c'est ce que les parents demandent. Et en fait, ça peut être très brutal. Bon, si demain, dans l'éducation nationale, par exemple, en France, on dirait, voilà, toutes les classes sont limitées à 5 élèves maximum avec des professeurs formés, etc. Là, oui, on pourrait faire l'inclusion à 100%, mais ce n'est pas possible. Il y a des élèves qui ont vraiment trop de troubles, que ce soit des troubles intellectuels, des troubles comportementaux, pour pouvoir être inclus à temps complet. D'ailleurs, j'aurais voulu poser une question à monsieur...
Monsieur Éric Jean-Renaud, je vous en prie.
Éric Jean-Renaud, voilà. C'est de savoir pour combien d'heures de scolarisation dans son IME ils avaient par semaine à peu près les élèves.
La question que vous a donc posée, monsieur.
Alors, je dirais tout dépend des enfants. Il y a des enfants qui vont aller avec les enseignants spécialisés 2 ou 3 heures dans la semaine simplement. Et il y en a qui vont faire 10 ou 15 heures d'enseignement dans la semaine. C'est vraiment en fonction de leur projet personnalisé et de leur niveau et leur capacité de compréhension et de possibilités.
L'autre sujet que je voulais aborder avec vous, c'est la question de la médicamentation anxiolytique, somnifère, sédatif. Près de 4 mineurs autistes sur 10 prennent de puissants psychotropes en France. Est-ce là aussi, Éric Jeanrenaud, un moyen, j'allais dire, pour certains professionnels de santé, pour certains professionnels aussi du médico-social, de trouver parfois la paix parce que les conditions sont difficiles, parce que la prise en charge est compliquée pour eux aussi? Et surtout, est-ce que c'est une solution justifiée?
Alors, je vais être très, très sincère, ce n'est pas une... Enfin là, après, c'est aussi mon point de vue, hein. Je ne parle pas au nom de tous les professionnels de France, mais je pense que la médication psychiatrique, pareil, ne doit pas être quelque chose d'absolu. Mais elle est parfois nécessaire. Là aussi, la France commence un petit peu, alors avec du retard par rapport à la Belgique, ça par contre c'est indéniable, on commence, et fort heureusement, à se reposer les questions par rapport à la médicamentation. On commence à ralentir certains traitements à certains enfants ou adultes autistes.
Vous voulez dire donc qu'il y a eu des excès dans ce domaine ?
Oui, il y a eu des excès, oui, très certainement. Après, il faut comprendre pourquoi. Il est vrai que quand on est dans un établissement et que sur un groupe, il y a 7 ou 8 autistes et que sur les 7 ou 8, il y en a 3 ou 4 qui sont particulièrement agressifs, agités, avec que ça peut être de l'automutilation. Enfin, il peut y avoir quand même, il y a des journées, des fois, qui peuvent être compliquées quand même, hein, pour les professionnels. Et il est vrai que à moins d'avoir un éducateur par enfant, ce qui n'est pas possible, pour toute la journée, eh bien, des fois, il n'y a pas tellement d'autres solutions que de passer par des traitements pour les apaiser.
Isabelle Respondino, en Belgique, alors, est-ce que les méthodes en matière de médicamentation sont différentes et est-ce qu'elles sont peut-être mieux employées qu'en France, dans notre pays ?
Eh bien, déjà, à la base, ce sont des écoles, donc ce ne sont pas des centres de soins. Donc, la médicamentation, on n'en pratique pas dans les écoles. Nous, ça fait des années, en fait, même des décennies, que on est formé, enfin, les enseignants sont formés. Ça, c'est un enseignement de type 3. Il y a plusieurs types d'enseignement spécialisés. Et ils sont formés à la gestion et à la prévention des troubles du comportement. Donc, s'il arrive qu'un élève ait de la médication, ça va pas seulement être pour l'autisme, ça va être parce qu'il a un trouble de l'hyperactivité ou de l'épilepsie ou voilà. Il est évident que quand on a des enfants qui viennent aussi de France, et souvent pas des IME, mais qui viennent justement des hôpitaux psychiatriques, s'il y en a encore, dans les hôpitaux de jour, bien souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on les sèvre d'abord. Voilà. Donc, il y a des approches qui conviennent à ça. Maintenant, évidemment, le taux d'encadrement n'est pas dû un pour un adulte pour un enfant. Ça, ce n'est pas possible avec les moyens de l'enseignement spécialisé. Mais voilà, on essaye d'abord ces approches-là. Tout ce qui est psychotrope et tout, c'est une école, donc ça, ce n'est pas possible.
Éric Jeanrenaud, voilà. Est-ce que les professionnels prescrivent, donnent trop de médicaments à ces enfants autistes parce que l'approche de leur prise en charge est encore trop centrée sur le médical, ou ça raconte tout simplement l'histoire plus large que vous commenciez à dessiner, à savoir le manque cruel de moyens dans ce domaine ?
Alors, c'est compliqué de répondre comme ça, mais en fait, il faut savoir que plus ça va et moins on a possibilité de donner des médicaments aux enfants, dans la mesure où nous n'avons plus de psychiatres dans nos établissements. Normalement, dans nos agréments, nous devons avoir des temps de psychiatre dans chaque IME.
On rappelle qu'il y a moins de 600 pédopsychiatres aujourd'hui en France.
Oui. Et moi, par exemple, dans mon organigramme, je dois avoir un temps de psychiatre et un temps de pédopsychiatre. Je dois avoir les deux, normalement. Ça fait des années qu'il n'y en a plus. Et la plupart des IME sont dans la même situation. On n'arrive plus à trouver un psychiatre qui veuille bien travailler, ne serait-ce qu'une demi-journée avec nous. Donc, en absence de médecin, on a aussi de moins en moins de traitements à donner aux enfants, puisqu'on n'a pas d'ordonnance. Alors, c'est un mal pour un bien, mais la réalité, elle est celle-là. Après, je voulais juste revenir sur le fait que médicamenter, ce n'est pas une solution, mais je voudrais dire, il faut aussi que les établissements puissent avoir tout le nécessaire pour fonctionner. C'est des moyens humains, certes, mais c'est aussi des moyens qui permettent d'acheter du matériel. C'est-à-dire que si nos établissements sont bien équipés et qu'on peut, quand un enfant est en crise, avoir un endroit pour le mettre à distance des autres, avoir des jeux divers et variés pour la sollicitation, à partir du moment où on arrive à être bien outillé, on arrive aussi à mieux travailler, à mieux canaliser les colères.
Je voudrais vous faire entendre la voix d'Emmanuel Macron. Il s'engageait sur 50 000 solutions nouvelles en matière de prise en charge. C'était une déclaration dans le cadre de la présentation de la stratégie nationale pour les troubles du neurodéveloppement.
Pour les cas qui sont les plus complexes, qui ne peuvent pas être scolarisés, qui sont tous ces enfants qui trop souvent vont à l'étranger, en particulier en Belgique. Là-dessus, on va porter une solution toute particulière dans le cadre de la stratégie, aux solutions d'accompagnement. Alors la stratégie de 2018 avait déjà prévu 2500 places supplémentaires, mais enfin c'était pas assez. C'est pourquoi l'engagement que j'ai pris à la Conférence nationale du handicap, c'est un plan de rattrapage de 50 000 solutions nouvelles. On aura 1,5 milliard d'euros total qui seront dédiés sur ces 50 000 solutions nouvelles et qui seront mises en place de la manière la plus rapide pour les cas qui sont les plus complexes. À côté de ça, on va évidemment travailler avec le secteur associatif pour continuer à accompagner justement les familles, pour continuer à accompagner les associations qui font tout ce travail.
50 000 solutions nouvelles, Éric Jeanrenaud, c'est une déclaration qui date du 14 novembre 2003. Et on en est où dans ce plan de rattrapage? Est-ce que c'est un peu tôt pour le dire?
Alors, c'est un peu tôt pour le dire, parce qu'en plus, on a eu toute la période Covid, quand même, qu'il faut pas oublier. Après, voilà, l'effort, il est annoncé. 50 000 solutions au niveau national, on est bien d'accord. Je vous disais tout à l'heure que, par exemple, pour le Val-d'Oise, c'est 3 000 places qui manquent pour des enfants. Donc, imaginez 50 000 pour le national. Je crois qu'on est loin du compte quand même, même si l'ambition est bonne. Voilà. Mais derrière, on est toujours sur la même question financière. Je pense que c'est ça qui bloque.
Pour qu'on mesure bien les choses, dans un territoire comme celui du Val d'Oise, et en comparaison de votre institut médico-éducatif, combien pouvez-vous recevoir de personnes aujourd'hui et quel est le nombre de demandes que vous recevez?
Moi, j'ai un agrément pour accueillir 64 enfants. Et je reçois, je dirais, 3 ou 4 dossiers par jour de demandes.
Et du coup, vous pouvez en honorer.
Je peux en honorer quand les meilleures années, on va avoir 2-3 sorties, donc 2-3 places pour des entrants. Et certaines années, il n'y a pas de place.
Isabelle Resplandino, combien de Français rejoignent chaque année les solutions belges ou en tout cas les établissements qui permettent d'accueillir des enfants autistes à la frontière franco-belge?
Alors, en tout maintenant, on a 7500 adultes avec 550 demandes par an. Plus les enfants, il y en a 1500 dans les établissements agréés qui sont hébergés. Plus 1000 dans les écoles qui font l'aller-retour tous les jours au domicile des frontaliers, plus 500 dans les internats spécialisés scolaires publics. Donc, ce qui fait qu'on a plus de 10 000 personnes et familles qui sont concernées. Le souci qu'on a, en fait, le président Macron parlait des 50 000 solutions, mais ce qu'il nous met de dire, c'est que ce sont des solutions très partielles. Bien souvent, du répit, quelques heures par-ci, par-là. Or, la population qui est envoyée en Belgique, c'est quand même une population qui a des besoins assez lourds, qui a des besoins d'être pris soit H24 pour le résidentiel, ou au moins pour l'école spécialisée, tous les jours à l'école. Et ça, les solutions ne sont pas adaptées à cette population-là. Donc, en plus, il a créé un moratoire pour les adultes en 2021, oui. Et le problème, c'est que les adultes maintenant, peut-être monsieur en a chez lui, il reste par l'amendement excrétant du nom du comédien qui avait fait voter cette loi pour que les personnes, les enfants devenant adultes dans des établissements puissent rester après avoir atteint leur majorité. Donc, on a ces adultes qui venaient avant en Belgique qui restent en France. Et en fait, il bouche encore plus, je dirais, pour les enfants qui doivent aller dans ces établissements. Donc, on a plus de demandes d'enfants maintenant qui, dont les familles veulent venir en Belgique. On a juste déplacé le problème. Parce qu'en fait, un moratoire, s'il y avait assez de place en France, il n'y aurait plus de demandes pour aller en Belgique, sauf pour les frontaliers qui habitent dans le même bassin de vie ou qui cherchent vraiment, comme les parents qui préfèrent qu'ils soient à l'école plutôt que dans un institut médico-éducatif, sans être contre les instituts médico-éducatifs. Mais pour un enfant, pour un parent, c'est peut-être plus facile parfois de se dire « mon fils va à l'école », même si c'est une école spécialisée, vous comprenez. Mmh. Voilà, donc il y a ça, il y a aussi des enfants.
Ouais. Pardonnez-moi de vous couper, vous êtes à distance. Une question tout de même, ces enfants, ces parents que vous rencontrez, Isabelle Resplandino, est-ce qu'ils ont tout essayé lorsqu'ils étaient en France? Est-ce qu'ils sont demeurés sans solution plusieurs mois, des années durant, avant d'être contraints justement de venir en Belgique?
Ben, il y a en fait les deux. Ben, c'est-à-dire que... En principe, notre association est effectivement le dernier recours qui reste parce qu'ils ont tout essayé en France, près de chez eux, évidemment. Surtout quand vous avez un petit bout de chou, bah, l'envoyer très loin ou devoir vendre sa maison, quitter son emploi pour déménager, sont vraiment des solutions qu'on ne prend pas à la légère, je dirais, que vous n'avez pas d'autres solutions. Mais il y a aussi le fait que les solutions... surtout maintenant, c'est vrai que la France rattrape son retard en qualité peut-être, mais en quantité, on n'y est pas encore. Mm-hmm. Mais il y a aussi les gens qui sont, malheureusement, on a beaucoup de familles qui sont quand même des victimes de signalement ou de placement abusif d'enfants. C'est souvent à l'école qu'en fait que ça se grippe parce que les parents exigent que leur enfant soit scolarisé. Comme disait monsieur, l'école n'a pas forcément les moyens. Et donc souvent on se retrouve, quand le parent insiste trop et demande à ce qu'on applique les lois, bien en fait il se retrouve avec un signalement abusif. Donc il y a aussi des familles qui viennent se réfugier carrément en Belgique. Voilà, c'est cet aspect-là. Pour les enfants, en tout cas, oui, on en a beaucoup de familles qui ont des signalements, voire des placements abusifs. Et en fait, on apporte une solution à ces enfants qui n'en avaient pas.
Éric Jeanrenaud, une réaction sur ce système qui fonctionne entre deux pays. Je dis bien que c'est un même système, puisqu'une large part est financée par la Sécurité sociale, mais on y reviendra.
Oui, je voulais surtout rebondir sur ce qu'a dit madame par rapport et du coup à votre question avec les 50 000 propositions qui doivent être faites sur le territoire. Effectivement, ce qu'il faut comprendre, c'est que un enfant qui va être maintenu dans le système scolaire, ne serait-ce que 2 heures ou 3 heures dans la semaine, c'est coché solution. Voilà, donc là, c'est quand même une fumisterie. Donc en fait, on considère que une solution, même si c'est une demi-journée dans la semaine, ça y est, c'est une solution. Donc cet enfant n'est plus sur la liste des 100 solutions. Pour autant, il n'a pas de solution. On ne peut pas dire que parce qu'il va aller une demi-journée à l'école du quartier, c'est une solution. C'est pas vrai. C'est même maltraitant, puisque moi, je reçois des familles. J'ai eu un enfant là qui a pu, en 2024, rentrer à l'IME, une place s'était libérée. Finalement, il allait encore deux demi-journées par semaine dans son école. Il passait ses deux demi-journées dans le couloir. C'est une réalité. Il passait dans le couloir. Parce que il était tellement ingérable dans la classe que l'enseignante ne pouvait pas s'en occuper. Donc ça, c'est pas des solutions. Ensuite, le problème, il est que tant qu'on n'arrivera pas non plus maintenant en France à donner des solutions pour les adultes autistes, parce que là, c'est un vrai problème. C'est-à-dire que on a tout misé sur l'inclusion et sur le travail. Il faut les mettre au travail, les personnes avec un handicap. Voilà, c'était le mot d'ordre depuis quelques années. Il faut qu'ils soient comme tout le monde, qu'ils travaillent. Or, quand on a
même les personnes qui sont touchées par un autisme extrêmement sévère.
Justement, il est là le problème. Il est que la population qu'on reçoit maintenant, et de plus en plus, en IME, n'est plus la même qu'il y a 20 ans. On accueille les enfants avec des autismes régressifs, les autismes les plus sévères. Sinon, s'ils sont avec un autisme léger, où on ne parle même pas des Asperger, ils ne passent pas dans nos instituts, ce qui est normal. Donc, en fait, ça veut dire que là, on a des personnes qui, de toute façon, n'accéderont jamais, ne serait-ce qu'au travail adapté. même à l'ESAT. Anciennement, CAT pour ceux qui nous écoutent et qui sont plus anciens. Mais en fait, si on ne libère pas de place dans des établissements pour adultes autistes ou déficients mentaux sans travail, on n'arrivera pas non plus à combler toute la liste d'attente des enfants qui doivent rentrer en IME.
Je reviens un instant et la question m'est venue en vous écoutant, Éric Jeanrenaud. On parle beaucoup de familles, de parents, d'enfants sans solution. C'est quoi aujourd'hui la vie, le quotidien d'un enfant sans solution ? Il est auprès de ses parents, de sa maman souvent, il est dans sa famille. Qu'est-ce que c'est concrètement un quotidien comme celui-ci ?
Un quotidien qui est fait, on va dire, au mieux d'un petit peu de temps à l'école, mais qui est un répit pour la famille, mais qui n'est pas un répit pour l'enfant, puisque ça se passe très mal, généralement. Il est fait d'un quotidien où beaucoup de familles font reposer finalement ce travail d'accompagnement à la maman. Beaucoup de mères finalement se retrouvent à ne pas pouvoir travailler, à ne pas avoir de vie sociale, parce qu'elles ont l'enfant autiste qui reste avec elles toute la journée. Au mieux, elles arrivent à trouver des petites solutions, c'est-à-dire des temps. Il y a l'orthophoniste à l'extérieur qui va prendre une heure par-ci. Il va y avoir. Alors maintenant, se développent aussi des fois des prises en charge avec des éducateurs à la maison. C'est assez nouveau, mais ça commence. C'est-à-dire que les MDPH ont des possibilités, dans la limite de ce qu'elles peuvent financer, de pouvoir financer comme ça des temps de professionnels vis-à-vis de ces enfants qui sont à la maison, mais c'est à la marge. Donc en fait, ça crée des situations de souffrance et pour l'enfant et pour les familles.
Isabelle Resplandounod, une réaction peut-être sur ce système français, la façon dont vous le percevez vous-même en Belgique et plus particulièrement sur le quotidien de ces enfants sans solution.
Voilà. Bien, effectivement, et j'ajouterais que bien souvent, je rejoins tout à fait ce que dit Monsieur Jeanrenaud. En fait, non seulement donc c'est souvent la maman qui se sacrifie, qui ne va plus travailler, la famille se paupérise, s'appauvrit, et bien souvent en plus le couple divorce. Donc souvent la maman se retrouve seule. Plus rarement le papa avec les enfants. Il faut savoir que donc une famille qui peut être aisée au départ financièrement va vraiment s'appauvrir. Et il est vrai que toutes ces solutions très 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 partielles, malheureusement, je reviens encore là-dessus, c'est que la population qu'on a en Belgique, c'est une population qui a des besoins lourds. Et ça ne suffit pas du bricolage par-ci par-là. Alors en plus, on prend ce bricolage et on met dedans tous les TND, c'est-à-dire les enfants avec 10, avec hyperactivité, etc. Alors il y en a 10 fois plus que d'autistes. On a fait un plan autisme qui était un plan TND. Donc on ajoute un peu plus d'argent, mais on met 10 fois plus de population. Donc ce qui était avant du bricolage, ça devient du saupoudrage. Moi, je ne sais pas combien monsieur a d'enfants sur sa liste d'attente dans son institut médico-éducatif. Mais voilà, c'est souvent des années d'attente avant d'avoir des places qui se libèrent, quoi, hein, pour des parents. Donc, ben oui, la Belgique est malheureusement une solution. Nous, on voudrait que ça change, en fait, notre association. Son rêve, c'est de plus être utile et de pouvoir dissoudre l'association pour que, ben, un jour, on trouve en France ce qu'on a mis en Belgique. Je dois dire aussi, je dois revenir sur les troubles du comportement. Ici, on a le service universitaire spécialisé pour personnes avec autisme qui, depuis presque 30 ans, bien s'occupe de la gestion des troubles du comportement et de tout ce qui a trait à l'autisme, etc. Et qui, c'est une fondation privée au départ qui a dû ouvrir à l'initiative des parents et des professionnels. Et ensuite, le gouvernement l'a financé. Et si on avait quelque chose comme ça en France, qui rayonnerait au point de vue des formations aussi, parce que c'est difficile de trouver du personnel en France, parce qu'ils aimeraient avoir vraiment les formations ad hoc, etc. Et donc, si on pouvait implanter des choses comme ça en France et changer les mentalités, mais ça demanderait non seulement des moyens matériels, mais aussi du temps. Et en fait, faire des moratoires parce que qui sont inutiles en fait. Parce s'il y avait les places, ben les gens ils enverraient plus leurs enfants en Belgique, donc ils auraient plus besoin de moratoire. C'est bloquer les gens, leur enlever la dernière porte de secours et c'est vraiment terrible quoi. Tout ça pour dire j'ai arrêté l'exil en Belgique et c'est pas vrai, c'est faux.
Donc, je voudrais dire un mot de la connaissance peut-être de l'autisme qui a évolué depuis les années 2000 avec vous, Jean Renaud, parce que sur ce sujet de la connaissance de l'autisme, il y a évidemment la question du diagnostic qui est centrale. Vous qui êtes engagé de longue date sur cette question, comment la connaissance a évolué de ce point de vue-là ?
Alors, il y a eu énormément d'évolutions et de travaux. On a enfin arrêté de considérer que l'autisme était de la faute des mamans. Là aussi, hein, tout à l'heure, on disait que c'était elles qui payaient en premier les difficultés d'avoir un enfant autiste, mais elles le payaient encore plus chèrement, puisque en plus, on considérait que c'était souvent de leur faute. Hein,
on disait qu'elles couvaient trop les
oui,
les
on disait, les jeunes on enfants. Disait que, par exemple parce qu'elles avaient trop couvé l'enfant ou parce que elles n'arrivaient pas à s'en détacher. Enfin voilà, on disait tout et n'importe quoi. Donc c'est vrai qu'elles étaient souvent montrées du doigt comme étant les responsables du fait d'avoir un enfant autiste. Ça, fort heureusement, toute cette partie psychanalytique sur ce sujet, c'est de l'histoire ancienne en France. Donc on est maintenant dans des recherches aussi qui nous permettent de mieux comprendre l'autisme, de mieux savoir. Alors on ne sait toujours pas avec exactitude quelle en est la raison et la cause, hein, ça voilà. On sait que il peut y avoir, mais c'est pas une certitude, une part génétique. On sait surtout que c'est un finalement au moment dans la toute petite enfance, hein, c'est après la naissance que le développement en tous les cas cognitif, le développement du cerveau ne se fait pas de la même manière que tout à chacun. Hein. L'autiste, il est dans la psychose et nous sommes de bons névrosés. Hein, voilà. Donc on le sait. Par contre, on n'arrive pas encore à savoir l'origine. Mais peu importe. Le plus important, en tous les cas, nous, pour pouvoir travailler, c'est effectivement de savoir que les accompagnements ont fortement évolué. Moi, je voudrais redire quelque chose. Il faut la Belgique, elle accueille encore beaucoup de Français, moins qu'il y a quelques années, puisque les départements avaient aussi fait le choix pendant un moment de ne plus accepter de départ en Belgique. Parce que faut quand même rappeler aux auditeurs que la Belgique, elle a beaucoup de ressortissants français dans des établissements. Moi, j'ai visité des établissements belges, c'était 90% de leurs effectifs. Donc, en fait, c'est malheureusement, mais enfin, c'est aussi une manne financière. Puisque de toute façon, quand on les envoie, hein, si le terme n'est pas beau, mais quand on les envoie en Belgique, c'est quand même la France qui continue, via les départements, de payer l'accompagnement qu'ils ont là-bas. Voilà.
Merci beaucoup à tous les deux de cette discussion, de ces éclairages aussi sur la prise en charge de ces enfants autistes. Éric Jean Renaud, je rappelle que vous êtes directeur de l'IME, l'Institut Médico-Éducatif La Chamade, c'est à Herblay dans le Val d'Oise. Et cette IME dépend de l'association ARP, Handicap Autisme Association, réunie par ici. Et avec nous à distance, c'était Isabelle Resplandino, vous êtes présidente de l'association pour les Français en situation de handicap en Belgique, et vous êtes également la mère d'un fils autiste. Merci à tous les deux d'avoir participé à Question du Soir.
Merci.